Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On en voit.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Il est 18h sur les ondes de Radio Campus Grenoble 90.8 sur votre radio et en direct depuis le site internet campusgrenoble.org. C'est l'heure de l'apérophonie, nous sommes ensemble pendant une heure et aujourd'hui nous plongeons dans les méandres du cinéma bis et du cinéma de genre, le cinéma des extrêmes ou celui des tours de force, un cinéma festif porté par un moteur souvent politique et forgé dans une longue histoire de cinéma de contre-culture et de contre-pouvoir. À Grenoble, c'est le Maudit Festival qui met à l'honneur ce cinéma avec une programmation riche de films cultes ou obscurs et qui se tiendra cette année du 28 janvier au 2 février. Nous recevons ce soir deux membres de l'équipe du festival, Sarah Onave, responsable de la programmation, et Lucie Courbière-Manceau de l'équipe Décoration et Animation. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je précise que c'est Oscar qui réalise cette émission. On le remercie depuis l'autre côté de la vitre. Alors, avant de partir sur cette édition 2025, c'est je crois la 16e hein, du festival, 15e ou 16e, peut-être qu'il serait intéressant de revenir un peu sur l'historique pour les personnes qui ne connaîtraient pas à Grenoble ou ailleurs ce que c'est que le Maudit Festival.
Oui, tout à fait. Du coup, tu as commencé en parlant de 16e édition. Alors en fait, c'est un peu, je ne vais pas dire que c'est polémique, mais nous, on considère qu'on est à la 6e édition parce que le Maudit Festival, il a une histoire un peu complexe. Il est né dans le siège d'un précédent festival qui s'appelait le Festival des Maudits Films, qui était né en 2009 et qui a existé donc jusqu'en 2019. Et on était un certain nombre à avoir participé à cette première aventure, à avoir l'envie de continuer, mais sous une forme un peu différente. Durant l'été 2019, on a créé une nouvelle asso et donc on a créé une nouvelle formule qui reprend une partie de l'héritage du Festival des Maudits Films, mais qui modifie certaines choses. Et on a rebaptisé donc tout ça le Maudit Festival. Et donc là, cette année, c'est la 6e. Voilà,
une sorte de reborn en quelque sorte.
C'est ça, voilà, c'est la rupture dans la continuité, voilà, c'est oui, c'est un peu.
Bah, c'est intéressant avec un cinéma comme ça, un cinéma de genre, c'est intéressant justement d'être aussi parfois dans la rupture. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous diriez sur ce festival depuis 2019, c'est-à-dire dans son rapport justement au cinéma de genre, au cinéma bis, voilà, peut-être que cinéma bis, cinéma de genre, c'est des termes qu'on pourrait aussi éclaircir pour nos auditeurs et nos auditrices. Et puis, comment est-ce qu'avec le Maudit, vous avez travaillé sur Grenoble avec des partenaires divers et variés pour construire ce festival ?
Par exemple, par rapport à la notion de cinéma bis qui renvoie finalement à des films qui sont produits avec une économie généralement plus réduite que voilà, le cinéma, on va dire, mainstream, qui est un cinéma souvent, effectivement, qui renvoie plutôt à des genres très codifiés. C'est pour ça qu'aussi on parle souvent de cinéma de genre, donc l'horreur, la science-fiction, le fantastique, etc. Nous, c'est vrai que justement, quand on a repris la... Quand on a voulu se lancer dans une espèce de nouvelle formule, on s'est un tout petit peu éloigné justement de ce qui faisait l'essence de cette première expérience, de cette première aventure plutôt, le Festival des Maudits Films, qui pour le coup était très cinéma bis. Nous, on en a toujours, mais on a voulu introduire une espèce de passerelle un peu plus large vers un cinéma d'auteur qui serait pas forcément du cinéma bis au sens de au sens strict, on va dire. Voilà, c'est pour ça qu'on a des œuvres qui sont plus classiques entre guillemets, mais qui peut-être dans le fond et la forme sont quand même maudits, exactement. C'est ça. Voilà, j'espère que je l'ai bien expliqué.
Qu'est-ce que c'est qu'un film maudit alors?
Ah, vaste question.
Alors, pareil, c'est les grands débats. Nous, on parle plus de maudits films que de films maudits, parce qu'un film maudit, c'est un film qui a eu une histoire, qui a fait que... Enfin, il n'a pas pu rencontrer le succès qu'il méritait, ou alors qu'il s'est confronté à des épreuves terribles au niveau de la production, la distribution du film. Dans notre programmation, il y a des films qui parfois sont maudits, mais nous, oui, on appelle maudit film, c'est une notion un peu vague qui, en, qui englobe effectivement du cinéma de genre, mais aussi du cinéma expérimental, tout ce qui sort un peu en fait des codes habituels, tout ce qui sort du cinéma mainstream. Et puis globalement, oui, tout ce qui constitue une espèce de contre-histoire du cinéma. Et puis, on a pas mal de films un peu subversifs aussi, donc je pense que c'est aussi un fil conducteur.
Oui, ça peut être des films qui ont marqué un tournant à une époque, mais qui peut être passé inaperçu aussi. Et que maintenant, on redécouvre en se disant, mais à l'époque, c'était un truc de fou, en fait, de faire ça. Voilà, ça peut être ce genre de choses aussi.
Oui, sans tout de suite rentrer à fond dans la programmation, je pense tout de suite à Starship Troopers, par exemple, qui est un film qui a été très mal vu pendant très longtemps et qui, peut-être seulement maintenant, à part à l'époque, peut-être une petite niche du public avait saisi la portée du film, mais c'est aussi maintenant, j'ai l'impression que le film a...
Ah, mais complètement. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais à l'époque de la sortie de Starship Troopers, les critiques étaient absolument abominables. Hein. Tout le monde disait que c'était nul. Enfin, les critiques de cinéma voyaient ce film comme un truc pour débile, quoi. Vraiment, presque le nanar de l'époque, quoi. Et finalement, c'est un film qui est revenu petit à petit, qui a ses lettres de noblesse avec le temps, où en fait, au final, on s'est rendu compte que il y a un vrai propos dans le film qui est très intéressant. Il y a plein de choses. Le film a plein de choses à dire et en plus il l'a fait de manière justement à la fois second degré et en même temps il te met le nez dans. Enfin il met l'Amérique, le nez de l'Amérique dans son caca quoi. Bah, regarde.
C'est surtout un film qui avait été pris justement au premier degré et qui avait pas été compris en fait. Enfin qui a été perçu comme un film ultra réac alors qu'en fait c'est plutôt l'inverse. Mais c'est vrai que Starship Troopers c'est intéressant parce que c'est pour le coup, c'est un film qui, même si il a été vraiment mal compris au moment de sa sortie, c'est quand même, c'est un film qui est produit par une filiale de Disney, enfin ce qui déjà en soi est, est une anomalie, mais voilà, c'est un film, sans trop m'étendre sur ce film, mais c'est vrai que c'est un film qui, quand même, est un film grand public, mais parce qu'il a un fond comme ça ultra subversif, en fait, il a sa place malgré tout aux côtés d'œuvres beaucoup plus, beaucoup moins connues dans la programmation. Quoi.
Ça fait. Et puis c'est intéressant de confronter ces grosses œuvres avec des plus petites. On y reviendra dans quelques instants. Mais tout de même, si on se penche sur le programme, sans forcément lire, si je suis un spectateur lambda et que je vois les images des films, je me dis tiens, il y a un fil conducteur. Le fil conducteur cette année, c'est l'animalité. Je ne sais pas si ça dit l'animalité. Oui. Je le dis en tout cas, je l'utilise. Cette édition 2025 se place sous ces auspices-là, avec donc une programmation qui emprunte à tout un bestiaire cinématographique. On va de l'oiseau au lézard en passant par la fourmi ou le hérisson. La première chose que je me dis finalement, avec l'animalité, est-ce qu'on ne touche pas aussi à ce que le genre fait très bien, c'est-à-dire à l'altérité?
Oui, tout à fait. Oui, et c'est intéressant ce lien avec l'altérité. Enfin, c'est... que tu fais parce que justement, par exemple, il y a 2 ans, on avait choisi un thème qui s'inscrivait justement clairement dans cette idée de l'altérité. On avait choisi un thème double et alter ego. Là, c'est vrai que c'est une espèce de déclinaison de cette thématique-là, mais sous un angle un peu différent et qui nous paraissait assez fun aussi, concrètement. Voilà, il y a de quoi faire avec l'animalité, oui.
Ah bah les animaux et le cinéma, c'est une grande histoire d'amour, hein, je pense.
Oui,
ou de haine aussi, ça dépend pour qui.
Ouais, puis j'ai l'impression que le genre a vraiment, je dis le genre de manière un peu réductrice, mais le cinéma de genre a vraiment poussé, comme il fait toujours, quoi, dans ses extrêmes, le rapport aux animaux, au danger souvent potentiel d'animaux. Moi, il y a un truc qui me frappe, quelque chose qui me frappe dans cette programmation justement liée aux animaux, c'est le documentaire que vous avez programmé, qui s'appelle... Rucus, documentaire sur les furries. Peut-être, on est déjà dans la programmation, mais on y va, tant pis, on est dedans. Peut-être revenir sur ce choix-là qui, à mon avis, est assez passionnant.
C'est vrai que tu parlais de la place de l'animal dans le cinéma de genre. C'est vrai que quand on pense cinéma de genre, on pense souvent aux petites bêtes, grosses bêtes, donc elles ont leur place dans la prog, hein, très clairement. Mais finalement, nous, ce qui nous intéresse au-delà des... Justement, de, même si le cinéma de genre dans son ensemble nous intéresse, on aime bien justement aller dans des territoires un peu... un peu méconnus, un peu moins attendus, on va dire. Et c'est vrai que ce film, par exemple... alors, je ne sais pas si je le mettrais dans la catégorie cinéma de genre, mais en tout cas, c'est un film documentaire qui a une forme quand même assez expérimentale. Enfin... par rapport à ce qu'on peut, on peut connaître de documentaires un peu calibrés, même pour le cinéma. Et c'est vrai que bah, c'est une œuvre qui est vraiment très singulière, qui est portée par un jeune réalisateur dont la voix me paraissait vraiment importante. Et en fait, enfin... Bon, pour raconter un peu la démarche de programmation de ce film, c'est que voilà, on a traditionnellement un film de clôture qui est un film documentaire. Et bon, on a creusé un peu les thèmes qu'on pourra aborder. Et puis très vite, je me suis dit, bah, pourquoi pas un film sur les furies. Donc j'ai regardé un certain nombre de documentaires sur la communauté furie.
Oui, si je m'abuse, ouais, je t'avais parlé d'un documentaire d'Arte sur les furies. Je t'avais dit...
Regarde.
Les furies, animaux, humains, tout ça.
Il y a de quoi faire.
Voilà.
Et en même temps, je trouvais que la plupart des documentaires étaient quand même dans une démarche un peu didactique de voilà, on vous explique ce que c'est que la communauté furie, voilà, quels sont les enjeux, etc. C'était pas forcément toujours très intéressant cinématographiquement parlant. Et là, je trouve que c'est, enfin, sans trop en dire, je trouve que c'est un film qui est vraiment passionnant parce que c'est un thème important du film, la communauté furie, mais finalement, ce n'est pas un film qui nous explique ce qu'est la communauté furie. En fait, c'est un angle d'approche pour parler de 1000 autres sujets qui me paraissaient à la fois essentiels et assez universels, en fait, sur qu'est-ce que c'est que le passage à l'âge adulte. Enfin, ça aborde plein de thèmes parfois un peu difficiles, mais à travers cette base de départ, en fait. Voilà.
On pourrait préciser ce que c'est furie, parce que c'est furie, non pas avec un R comme la furie, mais furie comme la... Je n'ai même plus le terme en français.
La fourrure.
La fourrure, voilà.
Tout à fait.
Donc, rien à voir avec les animaux. Je ne saurais pas trop l'expliquer, si vous pouvez le faire...
Bah alors, la communauté furie, en gros, ça rassemble des gens qui ont un intérêt spécifique pour, en gros, tout ce qui est approche anthropomorphisée des animaux. Donc, on en a souvent une vision très sexualisée, c'est-à-dire des gens qui ont une espèce de fétiche où ils sont excités par des gens qui sont déguisés en animaux. Ça peut être ça, mais ça va bien, bien au-delà de ça. Et souvent, la communauté essaie de se défendre un peu de cette vision un peu réductrice. Mais oui, la communauté furie, ça peut être tout un tas de passion autour de ça. Enfin, je sais qu'il y a, par exemple, il y a des gens qui ont une espèce d'intérêt encore plus spécifique dans la communauté furie, par exemple pour le roi lion, quoi. Enfin, voilà, le roi lion, bah, finalement, oui, c'est des animaux anthropomorphisés et qui parlent. Donc, c'est très, très large, mais voilà, c'est toutes les personnes qui se retrouvent là-dedans. Et souvent, c'est des personnes qui ont ils appellent ça un fursona, donc c'est-à-dire une espèce de personnage animal qui les représente.
Une sorte d'alter.
Oui, en fait, c'est déjà tout un univers... fictionnel, enfin je sais pas si on peut parler de fiction, c'est peut-être réducteur, mais en tout cas c'est de la fiction dans la fiction, mais il y a une création de fiction au sein de sa vie.
Ben, disons que c'est un peu comme c'est une manière aussi de se libérer à travers le furie, c'est à travers le personnage que tu vas te créer, ça va te permettre de te libérer de toi-même, de jouer une autre personne et du coup d'arriver peut-être à parler de choses que tu n'arrives pas à parler quand tu es toi, ou d'exprimer des choses que tu n'arrives pas à exprimer quand tu es que toi. Et c'est là où c'est vachement intéressant, justement, la communauté furie, c'est qu'on peut y retrouver des personnes qui ont parfois vécu des choses difficiles ou qui ont un statut particulier dans la société, etc. Et le fait d'avoir un alter furie... Enfin, le
fursona.
Le fursona, merci, j'avais plus le terme, leur permet de se libérer, en fait, et d'avoir une sorte de pause aussi dans leur vie, ou d'arriver à s'assumer tels qu'ils sont aussi, plein de choses comme ça.
Mais merci pour la précision, puis c'est pas anodin qu'on aille si loin dans la précision, je pense, parce que ça a un lien fort avec le rôle de ces films et de ces programmations. Et pour d'ailleurs parler un peu plus de programmation, comment est-ce que ça fonctionne, la programmation d'un festival de cinéma de genre? Comment est-ce que vous travaillez? Sur quel... Bon, moi, j'ai envie de détails, voilà.
Alors, je ne sais pas si on est très représentatif de la manière dont ça se passe dans la plupart des festivals, parce que pour connaître pas mal de festivals un peu de ce type-là, en France et à l'étranger, voilà, je pense qu'on a un positionnement un peu particulier. Pour le dire très clairement, nous, on a doucement mais sûrement glissé vers un régime semi-dictatorial mais bienveillant. C'est ça. Parce que, non, en fait, en gros, j'insiste sur le bienveillant, je n'ai pas fait de coup d'État. En fait, en gros, aujourd'hui, c'est moi qui programme l'essentiel des séances. En gros, j'ai une équipe qui me fait confiance. Donc, je choisis le thème et je fais des propositions. Et par contre, on se réunit régulièrement. Et en gros, je fais valider les choix. Et c'est vrai que j'ai quand même besoin de mon équipe pour... parfois, l'équipe me donne des idées, mais... et oui, typiquement, Starship Troopers, quand on a abordé le thème, là, d'un coup, il y a eu...
J'ai dit « Starship Troopers
!» Voilà, il y a eu un mouvement de masse, là, j'ai senti qu'il y avait une pression.
La pression de Starship Troopers,
voilà,
elle était là, ouais.
C'est ça, là, j'ai écouté le peuple.
Voilà, la séance de vendredi, Krina,
oui, oui, ah non, ça. Mais totalement.
Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Et ben, voilà.
Et après, on a des séances spécifiques, par contre, où il y a des gens de l'équipe qui sont dédiés à la programmation de ces séances. Typiquement, la séance jeune public du dimanche, on a une sous-commission de programmation qui gère la programmation de cette séance. Pareil pour la séance film récent qu'on prévoit à chaque fois dans le off, donc qui est déjà passé. Là, pareil, on a des gens qui programment sur cette séance-là. Mais l'idée, c'est... En gros, comment on fonctionne, c'est moi, je détermine un thème, on en discute, je regarde plein de films, et puis après, on fait des propositions et on avance comme ça. Et puis aussi, au fur et à mesure de la disponibilité des films,
des copies
et des droits, parce que ça, on se rend pas toujours compte, mais ça, c'est un énorme travail. Et en fait, entre ce qu'on souhaite programmer et ce qu'on arrive à programmer, parfois il y a un écart qui est assez grand, ou alors il y a des mois de négociation derrière. Et ça, c'est la partie un peu cachée, mais qui est assez complexe aussi.
Parce que j'imagine que entre un distributeur qui travaille avec l'oiseau de plumage de cristal et un qui travaille avec The Fantasy of the Deer Warrior, on n'est pas sur les mêmes échelles de négociation ou de...
Non.
Le droit.
Oh non.
Mais ce qui est intéressant, c'est que, comment dire, il y a des films... aujourd'hui, on a quand même pas mal de distributeurs ou d'éditeurs, parce que parfois c'est des éditeurs vidéo qui ont les droits, qui arrivent à avoir des droits d'œuvres extrêmement... qui de base sont quand même extrêmement rares, donc, et qui, paradoxalement, on arrive à les programmer facilement. Et puis parfois, il y a des films où on se dit ça va être facile parce que y a un ayant droit en France ou quoi que ce soit. Et puis là, bam, ils nous demandent des sommes astronomiques. Clairement, il y a des films, parfois, il y a des films qui sont complexes. Et dès que les ayants droit ne sont pas en France, dès qu'ils sont à l'étranger et dès qu'ils sont loin, ça peut être compliqué.
Ça devient compliqué.
Ouais. T'as le droit d'en dire plus, peut-être, pour certains films ou les négociations, etc.
Alors, je ne vais pas entrer dans le détail des négociations.
Dans les détails. Non, pas les détails des négociations. Non, pas ça, mais plus sur un film qui vient de tel pays, ça peut être un peu plus complexe. Les droits pour les sous-titres ou ce genre de choses, par exemple.
Je vais peut-être pas rentrer là-dedans. Par contre, je peux peut-être dire que oui, par exemple, cette année, on a... par exemple, pour The Fantasy of the Deer Warrior, c'est un film qu'on a... c'est le Taiwan Film and Audiovisual Institute qui a les droits. Donc là, on a négocié directement avec eux. Et là, c'est sûr que... ça s'est très bien passé. Ils sont partenaires de la séance, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins aisé de prime abord que, par exemple, typiquement, L'oiseau au plumage de cristal. Il y a un distributeur en France et on envoie de mails et c'est fini, quoi.
J'ai l'impression que c'est il y a de plus en plus de cinéma et donc de distributeurs qui se mettent sur le créneau du genre en fait. J'ai l'impression que c'est devenu paradoxal finalement parce que le genre d'une certaine manière a gagné. J'ai l'impression, mais peut-être que vous pourrez nous dire vis-à-vis de la fréquentation du festival par exemple, c'est un genre qui s'est démocratisé. Je mets des guillemets parce que c'est un mot un peu bâtard, mais comme on a pu le voir là avec le succès récent par exemple de The Substance de Coralie Farja qu'on peut mettre peut-être dans la fenêtre du genre, c'est quand même quelque chose qui n'appartient plus vraiment à la marge. Pas tout à fait, en tout cas. Je me pose la question. Parce que vu que je vois qu'il y a beaucoup de salles qui se mettent à faire des cycles, qu'il y a beaucoup de distributeurs qui se mettent à prendre des droits, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe.
Je pense qu'il y a une évolution, je pense que ça a plus... Comment dire ? Ces œuvres-là, elles sont plus cataloguées comme, mauvais genre comme avant. En tout cas, ça se démocratise, c'est vrai, mais je pense que c'est quand même assez lent. Et ça reste... comment dire, je pense qu'on peut être optimiste, mais c'est vrai que ça reste quand même circonscrit à certaines œuvres, ben, typiquement The Substance, prix du scénario à Cannes. Je pense que ça aide. Ouais. Voilà, il y a des choses comme ça. Tant mieux hein, si ça va dans ce sens-là, mais je pense qu'on a quand même un gros travail encore à faire. Et c'est vrai que nous, comme on est un festival essentiellement de cinéma de patrimoine, on programme très très peu de films récents ou alors plutôt dans le off.
Bien sûr.
C'est vrai que nous, justement, notre travail, c'est peut-être à une époque où il y a une plus grande visibilité pour les œuvres du cinéma, enfin qui appartiennent, on va dire, à une espèce de corpus du cinéma de genre, de finalement revenir un peu aux origines et de dire, regardez, il y a ça qui s'est passé dans les années 50, 60, 70, etc.
Et qui a permis de mettre une étape.
C'est ça, exactement.
De passer une balise et...
Tout à fait, ouais. Ouais.
Et je pense que, justement, il y a par exemple des personnes du public qui ne vont pas forcément regarder de cinéma de genre le reste de l'année, mais qui savent que, au Maudit Festival, on sait qu'à chaque fois que j'y vais, la programmation, il y a toujours des choses qui peuvent me plaire et tout. Et donc, ça va être un peu le moment de l'année où ils vont regarder du cinéma de genre. Et c'est très bien, parce que c'est exactement... Des fois, c'est juste les gens ont besoin d'avoir des gens en qui avoir confiance, un peu se laisser guider.
Une occasion.
Ils ne savent pas forcément quoi regarder, comment savoir si ça va leur plaire. Et le festival, il est aussi là pour tendre un peu la main et dire venez, on va vous montrer nous des trucs qu'on aime bien et si ça vous plaît venez.
Ah oui,
et c'est chouette.
Je pense qu'il y a un rôle de passeur qui est essentiel de toute manière, et pour éviter aussi que ces films deviennent des choses parfaitement mainstream, enfin que ça se perde quoi.
Il y aura toujours un cinéma de genre, il y aura toujours des films.
Oui. Mais moi je m'inquiète aussi de l'appréhension potentielle du capitalisme sur une certaine, on va dire, frange de cinéma qui se réapproprierait pour l'utiliser. Bon, là, peut-être que
ça arrive.
Oui, bien sûr.
Ah oui, même régulièrement. Mais
oui, justement. Mais c'est pour ça que le rôle d'un festival aussi, c'est d'assurer cette remise en contexte, ce passage-là. Oui.
Et vous vous souvenez, tel film super connu maintenant, en fait, ça vient de tel film que vous avez entendu parler.
Exactement.
C'est ça.
Mais on va parler un peu plus des films, justement. On va aller traverser toute cette programmation, soirée par soirée. Et avant cela, on va faire une petite pause musicale. On revient tout de suite. Thank you. Vous venez d'entendre un des titres de la bande originale de L'Oiseau au plumage de cristal. Et c'est Ennio Morricone, quand même, pas n'importe qui, qui la compose. L'Oiseau au plumage de cristal, c'est le film qui... Alors, c'est pas le film d'ouverture, si je dis pas de bêtises.
Alors,
C'est plus ou moins l'ouverture du festival le 28 janvier. Mais il y a eu un autre film d'ouverture.
Ah oui.
En fait, il y a eu la soirée de lancement ce sera la soirée d'ouverture.
Soirée d'ouverture. Voilà. Alors, le film de la soirée d'ouverture, c'est donc L'Oiseau au plumage de cristal de Dario Argento. C'est un choix presque qui paraît évident pour une ouverture officielle et en même temps, pas tant. Enfin, je veux dire, ça paraît tellement évident qu'on se dit qu'on va pas le faire, mais en fait.
Mais si, on va le faire.
Et puis, c'est pas rien puisque je crois que c'est son premier long métrage.
Tout à fait.
Peut-être
ouais.
que tu peux revenir sur ce film, sur ce choix.
Oui, bien sûr. Je pense que tu l'as bien résumé. C'est à la fois évident et pas évident. C'est-à-dire que c'est un grand classique du cinéma de genre. C'est vraiment le classique des classiques du giallo. Mais en même temps, c'est vrai que quand on pense Dario Argento, qui a un nom quand même qui résonne beaucoup pour les amateurs de cinéma de genre, c'est pas forcément le premier film vers lequel on va se tourner. On va penser plutôt à Suspiria, plutôt au Frisson de l'angoisse. Qui ne répondait pas malheureusement au thème animalier, mais par ailleurs. Mais justement, je me suis dit... Dario Argento, c'est un peu celui qui lance la vague des giallos qui portent des noms d'animaux, en tout cas qui se réfèrent à des animaux de manière plus ou moins métaphorique. Et je trouve que dans sa trilogie animalière, puisque donc effectivement c'est son premier long métrage en tant que réalisateur, mais il va faire deux autres films derrière, donc qui ont pareil qui prennent pour prétexte des animaux, donc Le Chat à neuf queues et Quatre mouches de velours gris. Mais je trouvais que c'était celui qui était peut-être l'un des plus intéressant des trois, à mon sens. Et je trouve que c'est, je trouvais que c'était une belle entrée en matière. Aussi, enfin c'est un classique, mais en même temps c'est aussi une entrée en matière vraiment forte, je trouve, pour des personnes qui ne connaîtraient pas du tout le giallo, par exemple. Voilà.
Oui, c'est la porte d'entrée, mais c'est une porte d'entrée qui est déjà très très pointue. C'est des films qui ont ce caractère, je trouve, quand même un peu aussi festif. Quand je dis festif, c'est-à-dire qu'on se rassemble dans la salle, il y a des choses qui nous font rire. Il y a des choses qui nous font peur. Alors, est-ce que les films de Dario Argento aujourd'hui font encore peur? C'est aussi une autre question qu'on peut se poser vis-à-vis de tout ce qu'on a pu voir. J'imagine que oui. En binôme, pas en binôme du tout, sur le lendemain soir, pardon, je lis la page et du coup j'ai l'impression que c'est la même soirée.
Pas de problème.
Le lendemain, le mercredi, on va sur un tout autre registre, toute autre époque. On a commencé à en parler tout à l'heure. C'est The Fantasy of the Deer Warrior. Je te laisse en parler.
Alors là, effectivement, on fait un virage à 180 degrés. Plus rien à voir parce que...
Beaucoup moins de couleurs.
Déjà. Mais pas que. C'est pas que ça. Non, c'est vrai que dans L'Oiseau au plumage de cristal, j'en dis pas trop, mais c'est vrai que l'animal, il est un peu prétexte. Enfin, c'est à la fois un élément central, mais c'est un peu prétexte. Dans The Fantasy of the Deer Warrior, là, pour le coup, il y a des animaux partout. Il y a des gens déguisés en animaux partout. C'est un film très, très, très singulier. Et pour le coup, c'est assurément le film le plus rare de notre programmation. Je pense qu'on est assez fiers de dire quand même qu'on est les premiers à le passer en province, en France.
Magnifique.
Voilà. Et ça fera que trois fois, ce sera que la troisième fois qu'il passe, a priori, donc en France. C'est un film taïwanais qui a été restauré en 2014 à l'initiative du ministère de la Culture taïwanaise avec d'autres œuvres et qui avait été présenté donc une première fois en France à la Cinémathèque française en 2019 dans le cadre d'une rétrospective qui s'appelait Le cinéma de mauvais genre taïwanais. Donc qui étaient des œuvres très éclectiques mais donc des films très rares et très en marge finalement par rapport à un certain cinéma officiel taïwanais très lisse, très calibré. Et c'est vrai que c'est un film, moi la première fois que je l'ai vu, j'étais à la fois éblouie et en même temps tellement interrogative devant ce que j'étais en train de regarder parce que c'est vraiment une fable animalière. C'est des gens qui sont déguisés en animaux et ils vivent leur petite vie dans la forêt. Puis d'un coup, il y a les loups qui arrivent et qui les attaquent, etc. Et vraiment, C'est fascinant parce que moi je trouve que c'est un film, on se demande ce qu'on est en train de regarder et en même temps c'est vraiment, il y a une dimension très hypnotique en fait à voir ces acteurs, ces actrices déguisées. Et là où ça devient vraiment, je trouve, passionnant, c'est que en fait il y a le film en soi, enfin voilà ce qu'il nous raconte sur le premier degré, mais en fait il y a un message politique très fort en fait derrière, il y a tout un contexte et si on gratte un peu, même si c'est pas forcément évident de trouver beaucoup d'infos par rapport à ce film, mais on aura quelqu'un qui viendra le présenter et qui accompagnera la séance, donc ce sera passionnant. En fait il y a tout le contexte géopolitique lié en fait à la révolution communiste en fait en Chine qui sous-tend enfin le propos du film et donc il y a toute une métaphore voilà qui peut être plus ou moins interprétée dans un sens ou dans différents sens, mais voilà, en tout cas c'est un film qui visuellement enfin est fascinant et en plus son histoire enfin ce qui nous raconte en dessous est tout aussi passionnant, en fait. Voilà.
Ça donne très envie. Ça a l'air d'être peut-être la pépite un peu obscure du festival. Alors,
pas totalement. Pour... Voilà. Ouais, totalement.
Et est-ce que tu peux revenir sur la personne qui le présentera ?
Donc, la personne qui va venir présenter le film, c'est un doctorant en cinéma qui s'appelle Shi Honglin et donc il prépare une thèse en ce moment sur la question justement du politique en fait dans le cinéma taïwanais. Il est lui-même taïwanais donc voilà, c'est clairement quelqu'un qui est compétent pour parler du film et qui pourra nous donner toutes les clés que nous public français toutes les clés qui nous échappent en fait donc ça va être passionnant et ce sera comme c'est c'est la séance ciné-club, il y aura tout un temps d'échange justement avec lui à l'issue de la projection.
Donc une grosse soirée ce mercredi 29 janvier à 19h. Je ne l'ai pas précisé pour L'oiseau au plumage de cristal, mais c'est bien aussi 19h.
Tout à fait.
Toujours au cinéma Juliette Berthaud. Ça non plus, nous ne l'avons pas dit. On pourra revenir... on va le dire souvent. cinéma Juliette Berthaud, la cinémathèque de Grenoble. Donc c'est le 29, The Fantasy of the Deer Warrior de Chang Ying, qui est donc sorti en 1961. Le jeudi, là on est sur un double programme, une soirée LSD. Alors attention, ce n'est pas le LSD auquel vous pensez,
quoique.
soirée lézard sous drogue, puisqu'il est question de reptiles sur cette double soirée, avec deux cinéastes assez importants. Enfin, en tout cas, qu'on connaît mieux, qui sont peut-être moins obscurs que Chang Ying, de fait.
Oui.
D'abord, le repère du ver blanc de Ken Russell, qu'on connaît pour Altered States, oui. Notamment, et je perds mon latin. Les damnés.
Les diables.
Les diables.
Oui.
Les damnés, les diables. en deuxième partie de soirée, Nowhere de Greg Araki. Présence aussi. Finalement assez surprenante dans une programmation de cinéma de genre, mais on va y revenir. Je te laisse nous parler un peu de ces deux films.
Alors, Ken Russell, tu parlais de Altered States. On l'avait passé lors de notre première édition, donc en 2020. Donc là, on remet Ken Russell à l'honneur. Le repère du ver blanc, c'est pas son film le plus connu, non. Très clairement. Mmh. Mais c'est un film qui est... Qui est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment cette patte cinéma un peu auteur. Il y a son univers. Et en même temps, c'est un film qui produit avec un budget très limité par rapport à ce qu'il avait pu réaliser auparavant. Donc clairement, c'est un film qui assume son héritage cinéma bis, série B, sans être forcément un pur produit de ce type-là. Et c'est un film qui mélange plein d'influences. Enfin, c'est adapté de Bram Stoker, l'auteur irlandais qui a écrit donc Dracula. Mais en même temps, il s'affranchit complètement du côté un peu littérature du 19e siècle. Enfin, il y met vraiment sa patte. Et justement, pour les personnes qui auraient déjà vu Les Diables, par exemple, qui était son grand film polémiques, censurées, enfin voilà, il y a quelques petites séquences, mais alors pour le moins mémorables dans le film, dans le repère du ver blanc, qui rappellent l'ambiance des diables, et on sent qu'il a 2-3 trucs à régler avec la religion, quoi. Très clairement, voilà.
Ça a l'air d'être un peu un sujet.
Oui, très clairement. Et puis en plus, il y a un casting génial. Bah, y a, pour les fans de Doctor Who, il y a Peter Capaldi, donc voilà, jeune. Bon, il y a Hugh Grant. Et il y a, alors son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il y a Amanda Donohue qui joue Lady Sylvia et qui est une actrice. Mais vraiment, quand on la voit dans ce film, on se dit, mais elle est absolument formidable dans le rôle d'une espèce de vamp. Enfin, j'en dis pas trop, mais voilà, elle est incroyable. Hein, voilà. Et Nowhere, pour nous, Nowhere, c'était... Alors, Nowhere, je pourrais en parler pendant des heures, on va éviter, mais...
On a moins de temps que ça.
Nowhere, séance de 21h30, donc le deuxième film de la soirée.
Deuxième partie de soirée.
Greg Araki.
Greg Araki, moi, c'est mon chouchou, quoi, enfin, très clairement. Nowhere, c'est un des films préférés du Maudit Festival. Voilà, c'est un film qu'on voulait passer depuis longtemps. C'est vrai qu'on n'est pas sur du... genre au sens un peu calibré du terme, mais le cinéma de Greg Araki, c'est quand même un cinéma qui s'affranchit de tout un tas de codes cinématographiques, qui parle de choses, enfin si on prend par exemple Nowhere, mais pas que, enfin c'est un film qui est très en avance sur son temps par rapport à plein de thématiques, très subversif, et puis Nowhere, comment je peux le vendre, enfin, c'est vraiment une expérience cinématographique. Et pour le coup, j'envie les personnes qui vont le découvrir sur grand écran. Là, en plus, il sera présenté en version restaurée 4K. Donc, c'est tout nouveau, tout frais. Franchement, c'est un pur délire. Et je trouve que c'est un film qui peut aussi plaire à un public... je pense que c'est un public... Enfin, il a un gros potentiel pour moi avec le public plus jeune, dans le sens où aujourd'hui, il y a quand même une grosse... Il y a quand même une grosse hype autour des années 90. Et c'est un film qui est... Je trouve qu'il est passionnant parce qu'à la fois, il est un bon concentré de culture des années 90 et en même temps, il nous vend une vision un peu fantasmatique de ce qu'étaient les années 90, parce que clairement, les années 90, c'était pas ça vraiment. Mais voilà, mais qui en fait un objet cinématographique vraiment atypique, complètement décalé, et puis alors avec un casting, alors là complètement dingue,
aux petits oignons, quoi.
Voilà,
on est sur une soirée globalement, je crois que vous utilisez le terme dans le flyer, c'est une soirée camp en quelque sorte,
ouais, quelque part, ouais,
soirée queer presque,
assez queer, ouais, aussi le camp est assez lié au queer, mais oui, c'est une soirée assez queer, surtout avec Nowhere, mais et puis c'est une soirée, enfin, pourquoi on l'a appelé Les Arts sous drogue, très beau titre trouvé par Pierrick de notre équipe, on le salue, c'est une soirée un peu psychédélique, quoi, enfin voilà, c'est ça commence déjà un peu dans le repère du ver blanc, et puis alors dans Nowhere, après là, c'est non-stop. Quoi.
On n'a pas besoin de venir sous influence, en tout cas, je le répète, pour les auditeurs, ne venez pas sous LSD, c'est pas le thème de la soirée.
Et d'ailleurs, juste pour finir avec Nowhere aussi, on a une résurgence en ce moment de films d'adolescents. Aussi, on parlait, voilà, films des années 90, années 80-90, les teen movies, ou même, là, c'est même cette année, on a eu, enfin, l'année 2024, on a eu quelques films français autour de l'adolescence et tout ça. Et je trouve que Nowhere parle extrêmement justement de l'adolescence, je trouve. Il est extrêmement touchant dans son propos. Et je me suis dit, ça marche très bien aussi dans notre époque maintenant, là, nous, de cette année, où il y a pas mal de films sur les adolescents. Et là, je me suis dit, mais il est encore si juste, même s'il a 30 ans, quoi. Enfin,
oui, tout à fait.
C'est incroyable.
Ça permet de replacer certains curseurs. Avant de continuer notre présentation de cette programmation, je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale et on revient juste après.
Thank you.
vous venez d'écouter en partie Love is Stronger Than Death de The, titre de groupe compliqué à dire, qui fait partie de la bande originale de Nowhere, dont on vient de parler, puisqu'on parle du Maudit Festival, qui se tiendra du 28 janvier au 2 février. On continue le parcours à travers la programmation de cette édition. Vendredi 31 janvier, on a des petites formes surprises. Peut-être 2-3 mots sur ces petites formes surprises. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est une séance, enfin c'est pas tout à fait une séance, en fait c'est un programme qui sera diffusé donc en boucle dans la petite salle de projection de la Cinémathèque, donc dans les locaux de la Cinémathèque. On rentre, on sort quand on veut et c'est gratuit. Et ce sera donc une petite sélection de programmes courts, on vous dit pas quoi, mais sur le thème des animaux. Ce sera plutôt fun, globalement.
De 12h à 14h du fun autour c'est de ça. Petites formes surprises. On continue les festivités, toujours, on est toujours vendredi 31 janvier, avec une triple soirée, une soirée invasion, avec trois films dont un très important dont on a parlé en début d'émission, Starship Troopers de Paul Verhoeven, mais avec deux autres films un peu plus, on va dire un peu plus obscurs.
Oui. Ah bah à côté de Starship Troopers, clairement. Donc l'idée c'était de programmer voilà trois films de science-fiction sur le thème de l'invasion et avec vraiment des approches très différentes et puis des créatures différentes. Phase 4, donc c'est l'unique long métrage de Saul Bass qui était un petit génie du cinéma. C'est un film de science-fiction où les fourmis deviennent ultra intelligentes et décident qu'elles vont elles vont prendre le contrôle du monde, enfin de la Terre.
Ouais. Pourquoi pas. À la barre des humains, quoi.
C'est beau, ça.
Voilà. Sympa. Et c'est un film... Non, c'est vraiment... Enfin, pour les amateurs, amatrices de science-fiction, mais même bien au-delà, c'est un film vraiment très singulier. On est très loin du film d'invasion ou d'insectes géants, voilà, comme on a l'habitude de voir. C'est un film qui a vraiment une dimension métaphysique, enfin, qui s'inscrit vraiment dans le sillage de 2001, l'Odyssée de l'espace, par exemple. Mmh. Et c'est un film vraiment très, très envoûtant. Et pareil, une belle expérience de cinéma à découvrir sur grand écran ou à redécouvrir sur grand écran. Voilà. Et à minuit, là, on change complètement d'univers. C'est un film de kaiju, donc film de monstres géants japonais. On s'est dit, franchement, on est le Maudit Festival. On va pas passer un film de Godzilla. Godzilla, c'est super, mais Godzilla, tout le monde connaît Godzilla. Donc, on est allé chercher une petite créature plus méconnue qui s'appelle donc Gappa. Et Gappa, c'est un petit oisillon reptile géant. Et voilà. Et c'est très sympa. C'est, pour le coup, c'est un film qui est assez rare, même s'il a connu une ressortie en vidéo là, grâce à l'éditeur Extra Lucid Film. Voilà, c'est la séance de minuit, donc c'est le moment un peu...
Un peu fun,
mmh. On est fatigué, on regarde un film sympa.
On a eu deux films avant qui nous ont bien écrasés. Écrasés.
Mmh. Et on termine dans la fête.
Oh oui, donc, avec des animations aussi.
Des animations, on va y revenir d'ailleurs aux animations très très vite. Donc Starship Troopers à 19h, Phase 4 à 21h30 et Gappa à minuit. Samedi, c'est une carte blanche, samedi 1er février, une carte blanche à Mutoscope qui organise un festival de courts-métrages à Lyon. C'est la même équipe du festival Hallucination Collective que vous connaissez peut-être un peu mieux, donc ils proposent une soirée Grindhouse.
Alors, c'est deux choses différentes. Il y a d'abord la carte blanche à Mutoscope à 17h, et ensuite il y a la soirée Grindhouse à 19h. Donc oui, on a décidé cette année de faire un peu plus revenir le court-métrage dans le Maudit Festival. Ça faisait quelques années qu'on n'avait plus de séances vraiment dédiées. On passait du court-métrage, mais plus en avant-programme. Ce qu'on continue par ailleurs à faire, puisque le jeudi et le vendredi, il y aura des petits programmes surprises.
Oh voilà. Oui, vous n'êtes pas prêts.
Non, clairement. mais voilà, on s'est dit, pourquoi pas refaire une vraie séance court-métrage, enfin vraiment dédiée. Et on s'est dit qu'on allait faire travailler les autres. Donc, on a décidé d'inviter les copains. Effectivement, le Festival Mutoscope, c'est un festival lyonnais qui a eu lieu donc la semaine dernière, enfin il y a 10 jours, et voilà, ils sont totalement dans l'esprit dans un esprit qui est semblable au nôtre, donc c'est vraiment des courts-métrages de genre, des courts-métrages expérimentaux, enfin des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans des grosses manifestations de courts-métrages par exemple.
Et donc, pour la soirée Grindhouse, qui donc n'est pas la même chose,
oui.
Deux films sur les garous.
Oui.
Qu'est-ce... Attention.
De quoi les parle-t-on
garous.
Des chats et des loups.
C'est ça, exactement. Tu le fais si bien. Donc oui, on aura... Je crois qu'ils vont t'embaucher. Donc on aura un premier film, un film de chat-garou, qui est La nuit déchirée de Mike Garris, qui est un film écrit par Stephen King. Donc pour une fois, ce n'est pas adapté d'une œuvre de Stephen King, c'est Stephen King scénariste. Voilà, c'est un film vraiment très ambiance drive-in, voilà, avec tout un tas de caméos, notamment de Réa extrêmement culte, du cinéma de genre américain. Voilà, c'est je dis beaucoup c'est fun, mais là, pour le coup, vraiment, c'est très fun. Et puis, David Lynch est mort il n'y a pas très longtemps, donc j'en parle particulièrement. Il y a dans La Nuit déchirée, Maïchen Emick, qui jouait chez lui, oui. Donc dans Twin Peaks. Mmh. Voilà, c'est toujours un plaisir c'est de dommage. La retrouver, même si on ne la voit pas beaucoup. Et en deuxième partie de soirée, on passe Ginger Snaps. Donc là, c'est un film de Louve-Garou. Et c'est un film absolument génial qui malheureusement n'a pas connu de sortie en salle en France, qui s'est fait quand même une petite réputation avec le temps. Et c'est un film qui est vraiment étonnant parce qu'il se réapproprie le mythe du loup-garou, mais dans une version féminine et assez féministe pour le coup, et je dirais même très féministe pour les années 2000, qui étaient des années sombres. voilà, pour le féminisme. Donc voilà, et c'est assez sombre globalement, mais c'est un film à pas manquer, en tout cas, voilà, clairement, c'est un des films importants de l'édition.
Ça aussi, c'est une perle.
Voilà. C'est noté, Ginger Snaps, on ne manquera pas. Et vous payez un ticket pour voir deux films, si je ne m'abuse, sur cette soirée Grindhouse.
Oui, c'est tarif unique pour tout le monde. Donc c'est 12€ pour les deux films. Peu importe que vous regardiez un ou deux films. C'est, voilà,
on va voir, c'est le principe. C'est la soirée Grindhouse, 19h, 21h30. Je me permets qu'on avance très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Sur la journée du dimanche 2 février, on a deux temps forts. La projection du Petit Hérisson dans la brume et autres merveilles de Yuri Norstein. Peut-être deux mots.
Oui, deux mots. En fait, c'est un programme de plusieurs courts-métrages soviétiques réalisés, courts-métrages d'animation soviétiques réalisés entre les années 60 et les années 80. Voilà, c'est pour petits et grands, et c'est sublime. Et,
oui, et ouais. Si Simon était là, il dirait c'est absolument merveilleux, c'est les plus beaux chefs-d'œuvre de l'animation que j'ai jamais vus, donc allez-y avec vos enfants et tout, c'est trop bien.
Exactement.
Oui, on a tous le droit de se faire peur. Hein. Non, ça fait pas peur, mais il y a quand même une bizarrerie dans ces films-là assez belle et assez étrange. Et donc, on en parlait au début de l'émission, à 14h, la projection de Rucus, de documentaire sur les Furies. Ce sera au ciel.
Ce sera au ciel, je précise.
Ciel, oui.
Parce que la séance du Petit Hérisson, ce sera à Mont-Ciné.
Tout à fait.
Martin Dère, si je ne dis pas de bêtises. Il nous reste quelques minutes, très peu de minutes, trop peu de temps pour parler de toutes ces belles choses qui se passent pendant le Maudit Festival. Pendant le Maudit Festival, il n'y a pas que des films. Il y a d'autres événements, d'autres animations. Oui. Il y en a une, ça commence demain soir avec une exposition. Je te laisse en parler.
C'est tout simplement demain, mardi 21, si jamais vous ne savez pas quelle date on est aujourd'hui, à 19h, donc ça sera à Peser l'Animation. Donc au centre-ville de Grenoble, le vernissage de l'exposition Animaudit, et on reste dans les animaux, et la malédiction, c'est parfait. Donc avec Peser l'Animation, parce qu'on est c'est un sponsor aussi d'Animaudit, et c'est une dizaine d'artistes locaux qui présentent des œuvres sur le thème les animaux. Donc c'est vraiment plein d'œuvres très différentes, avec plein de techniques différentes. Ça sera probablement très très sympa et très très joli. Enfin, je dis probablement peut-être parce que...
Et tu exposes.
Et parce que j'y expose.
Ça, évidemment. Voilà. Faut le dire.
Mais c'est vraiment plein d'artistes talentueuses et talentueuses. Voilà, thème animaux. Et donc après, vous y trouverez forcément des choses qui vont vous plaire. Ça, c'est sûr
et
certain.
Et donc demain, on est en vernissage, mais après, on peut voir les œuvres pendant combien de temps
On peut voir les œuvres pendant 3 semaines, si je ne m'abuse. Un peu plus.
Jusqu'au 9 février,
j'avais
je
noté.
Crois.
Ah oui,
je crois que c'est ça. Jusqu'au 9, il me
semble. En tout cas, le vernissage aura lieu à 19h demain soir et c'est à Peser l'Animation, qui est donc un escape game, si je ne dis pas
c'est
de bêtises,
oui.
qui se trouve, je sais, qui se trouve
Rue Chenoise.
Rue Chenoise, d'accord, en plein centre-ville. En plein centre-ville.
Oui.
Très bien. Et le deuxième événement, puisqu'il y en a un deuxième, c'est mercredi.
Mercredi 22, tout à fait, à 19h30 au Café des Jeux. Nous sommes en partenariat avec le Café des Jeux et avec le collectif Démon pour une soirée jeu de rôle. Si vous ne connaissez pas le jeu de rôle ou si vous connaissez et que vous aimez bien ça, n'hésitez pas à venir. Il reste encore des places sur certaines tables. Pour être exact, il y en a 4, dont 3 qui sont encore ouvertes. Les inscriptions se font directement sur le site internet du Café des Jeux, sur la page d'événements. Vous pouvez voir les tables de jeux de rôle, qu'est-ce qu'elles proposent, quels sont les univers dans lesquels vous pouvez jouer. Et puis, si ça vous intéresse, vous envoyez une inscription pour une des tables. Et voilà.
Peut-être rajouter 2-3 mots sur le jeu de rôle pour nos auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas ce que c'est et qui pourraient être intéressés quand même.
Oui, le jeu de rôle, c'est un jeu, on va dire, narratif. Le principe, c'est de raconter une histoire tous ensemble autour d'une table. Donc, ça peut se jouer avec des fiches personnages, avec des dés ou pas. Parfois, il n'y en a pas. Et c'est juste, voilà, on va construire une aventure tous ensemble. Il y a le maître ou maîtresse des jeux qui est là, le meneur ou la meneuse, qui va vous expliquer dans quel univers vous êtes, qui va vous raconter un peu qu'est-ce qui se passe. Et vous, vous allez choisir de faire des choses plus en fonction de qu'est-ce qui se passe et qui vous êtes. Voilà, vous allez jouer des personnages, etc., dans des univers.
Et c'est des jeux qui sont élaborés, artisanalement, si je puis utiliser ce mot.
Alors, ceux qui sont joués au café, non. Ça va être que des jeux qui ont été édités. Alors après, il me semble que les scénarios, il y en a certains qui sont peut-être faits maison, mais il me semble que les univers, par contre, eux, ont déjà été écrits. Et ensuite, nous, après, on fait notre petite tambouille avec ça. Et voilà, oui, parce que je mène aussi une table.
Eh oui. On sent la passion aussi qui...
Oui. Mais vraiment, si jamais vous n'avez jamais testé le jeu de rôle, n'hésitez pas, les tables sont aussi ouvertes aux débutants et débutantes. Donc voilà, vraiment, en plus, le Café des Jeux, c'est un super endroit.
C'est un super lieu.
Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à venir.
C'est ce qu'on appelle donc le off du festival, ces événements. Je le redis, demain, mardi 21 janvier à 19h, le vernissage de l'exposition Animaudi à Puzzle Animation et mercredi 22 à 19h30, la soirée jeu de rôle au Café des Jeux. Voilà, on vient traverser tout ce beau programme du Maudi Festival, cette nouvelle édition, cette édition 2025. Avec donc l'oiseau plumage de cristal en ouverture. Lucie, tu veux dire un mot ?
Oui, parce qu'il y a aussi des animations pendant la semaine de festival. Juste, je voulais ajouter ça parce que nous avons quand même plein de sponsors super sympas qui nous ont donné accès à plein de cadeaux qu'on va pouvoir vous offrir pendant la semaine. Et donc, il y aura des animations qui vont parsemer le festival à partir notamment de jeudi, surtout avec des petits quiz et des surprises, bien évidemment. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce qu'on va offrir.
Tu peux peut-être parler de Maudite.
Oui, bah oui, Maudite, bien sûr. Maudite sera avec vous pendant la soirée, pendant toutes les soirées du Maudit Festival. Maudite étant la personne qui anime un peu, la personne, la démone. Hein,
la mascotte.
La mascotte du festival qui va animer votre semaine de festival et notamment du coup des petits quiz et des petites surprises comme ça. On va offrir notamment Shadows qui nous a gentiment donné quelques abonnements, Puzzle Animation qui nous a donné aussi quelques places pour faire de l'escape game. Enfin voilà, il y a plein de petites surprises et OCD bien entendu, la boutique de DVD de Grenoble qui nous a aussi donné quelques DVD qu'on va pouvoir vous offrir. Donc voilà, ça va être rigolo.
De quoi vous appâter en plus des nombreux films qui donnent très 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 envie. Donc je répète le Maudit Festival du 28 janvier au 2 février. Ça se passe en grande partie au cinéma Juliette Berthaud, mais pas que. On vient de parler des animations qui auront lieu avant le festival, mais il y a aussi des projections à Montciné, il y a eu des projections au club, et il y aura une projection au ciel. Donc le Maudit Festival cinéma de genre à découvrir dans toutes ces salles. Je sais pas pourquoi je me perds dans ma sortie de route. Je fais une sortie de route, voilà. Merci c'est Sarah, merci. C'est la malédiction qui me tombe dessus. Je me suis laissé envoûter par toutes ces c'est animations, ça. Ces surprises. En tout cas, voilà, on vous souhaite de découvrir ce festival qui a prouvé, a fait ses preuves maintenant sur Grenoble et qui permet de soutenir ce cinéma-là. Merci Sarah, merci Lucie et merci Oscar pour la réalisation de cette émission.
Merci
c'était
Oscar.
L'apérophonie. On vous dit à demain pour une nouvelle apérophonie sur Radio Campus Grenoble 90.8.
L'apérophonie! Ouais, mais c'était quoi? L'apérophonie!
C'est quoi?
L'apérophonie!
Quoi?
Sur Campus Grenoble!
Sur quoi?
Sur le 90.8!
Ah, sur Campus Grenoble 90.8!
Oui!